Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec le prof d'histoire géo et militant CGT Benjamin Amar, avec la journaliste à l'incorrect Juliette Brien, c'est le journaliste et écrivain Fred Hermel. Dans un instant, on va parler de ces 7200 restaurants qui ont fermé en 2023. Est-ce qu'il y a trop de restaurants en France? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. On parlera d'arnaque avec Charlotte Méritant dans RMC Conso à 14h30. Vous la connaissez peut-être pas et pourtant c'est la nouvelle arnaque du moment. L'arnaque aux bagages perdu. On vous expliquera en quoi ça consiste et comment ne pas vous laisser prendre. Les immanquables, ce sera avec Rémi Barré aux alentours de 14h35. Vincent Serroussi, notre humoriste, 14h50. Et puis 20 000 euros à gagner, Rémi.
Jusqu'à 20 000 euros à gagner aujourd'hui sur RMC. C'est comme ça tous les jours, tout au long de la semaine. C'est la roue RMC. Dès que vous entendez cette alerte, eh bien, vous avez alors 5 minutes pour vous inscrire, en envoyant le mot roue par SMS au 7-32-16. J'ai tourné trop vite. Roue par SMS au 7-32-16. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment. Restez bien à l'écoute.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC, on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. 7200, c'est le nombre de restaurants qui ont fermé en 2023 en France. Une hausse de 44% par rapport à l'année d'avant. Et qui s'explique bien sûr par la baisse du pouvoir d'achat des Français, Rémi, mais pas que.
Oui, pas que. Les raisons, en fait, elles sont multiples et souvent, les difficultés s'additionnent. Certains, à l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration, évoquent notamment l'après-Covid. Les comportements ont changé depuis 2021. On mange plus chez soi et certains salariés sont désormais en télétravail, ce qui pénalise les restaurants. Le midi vient ensuite l'inflation, évidemment, l'explosion des coûts de l'énergie pour les restaurateurs, des matières premières également, mais aussi des clients obligés de se serrer la ceinture. Au moment même, c'est en ce moment où de nombreux établissements se voient contraints de rembourser aujourd'hui le PGE, le prêt garanti par l'État qui leur avait permis de garder la tête hors de l'eau au moment de la crise Covid, sans compter sur un peut-être trop grand nombre de restaurants par endroit, c'est ce que disent aussi certains. Après une année 2022 qui avait été marquée par un record à la réouverture totale des établissements à la suite, encore une fois, de la crise Covid, 2023, tu l'as évoqué, Estelle, est une catastrophe. Au total, 7200 restaurants ont glissé la clé sous la porte sur 179 000 que compte environ le pays.
Alors, y a-t-il trop de restaurants en France? Je commence avec vous, Benjamin Amar.
Bon, je pense qu'effectivement, il y a un aspect qui est multifactoriel, qui vient d'être résumé. Mais honnêtement, dans ces facteurs, notamment quand on dit oui, mais avec depuis le Covid, on a une tendance à être plus casanier, à finalement moins sortir. Oui, c'est peut-être quelque chose de philosophique, mais moi je suis convaincu que c'est aussi quelque chose qui a un lien avec le portefeuille.
Bah, voilà. Tout est lié. Enfin, tout s'accumule plutôt.
Et je pense
et la qualité des restos, hein, pardon. Hein.
Alors oui, ça c'est ça, indéniablement. Mais quand même, pour beaucoup de gens, imaginons une famille avec deux enfants, dans un restaurant lambda, vous en tirez pas à moins de 100 balles.
Oui, bien sûr.
Et donc la problématique pour moi, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat qui est quand je discute avec autour de moi, les gens, tout simplement, le fait d'aller au restaurant, c'est devenu une pratique de luxe, c'est devenu une pratique ultra exceptionnelle pour les vraies grandes occasions. Et donc, à partir de là, fatalement, quand il y a un problème au niveau de la demande, fatalement, pour les restaurants, c'est une difficulté d'autant plus importante que la concurrence est féroce. Alors, je sais que Paris n'est pas la France, mais quand on se balade à Paris, dans n'importe quel quartier, même un quartier plutôt calme, les restaurants sont très nombreux.
Oui. Et parfois, tu vois personne et je me dis mais comment c'est possible? Il y a plein de monde et les restaurants ils vident. Donc, tu te dis, lui,
Et de la même manière, quand on se balade dans Paris, moi j'ai toujours dans sa première banlieue, pour trouver souvent une librairie et acheter la presse, c'est très compliqué.
Ah oui, il n'y a plus de kiosque.
Voilà. Donc, mais par contre, si vous voulez aller manger au restaurant, au bout de 150 mètres, vous en avez un, etc. Donc je pense qu'on est dans une problématique qui est pour le coup, entre autres, très liée à la problématique salariale.
Ces faillites, pour vous, Juliette, qui avez travaillé justement en restauration, elles sont dues à quoi en premier? Alors oui, il y a la baisse du pouvoir d'achat, mais après, on ne va pas se mentir, les restaurants d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la qualité d'il y a 10 ans. Hein.
Alors, c'est multifactoriel. Le fait qu'il y ait trop de restaurants, c'est un fait connu. Hein. Ce n'est qu'un fait. Il y en a vraiment beaucoup trop parce que c'est un métier restaurateur que tout le monde pense pouvoir faire. Donc tout le monde se lance dans la restauration sans avoir le bagage, voilà. Et donc parfois ça donne lieu à des catastrophes. Et moi je pense qu'il y a aucun numerus clausus à faire. Il suffit simplement de laisser les restaurants mourir. C'est-à-dire qu'un restaurant.
Sélection naturelle quoi.
Voilà, sélection naturelle. On arrête avec les métiers en tension, main d'œuvre étrangère, etc. Si on n'a pas les moyens de se payer une main d'œuvre à prix à salaire correct en France, eh ben c'est qu'on est on a la vocation à mourir. Voilà, vocation à fermer son commerce. Et c'est comme ça. Et donc le numerus clausus, il se fait tout seul. Le problème c'est que Il y a un manque de personnel parce qu'il y a trop de restaurants.
Aussi, ouais,
et aussi
vrai.
Parce que donc, c'est vrai que les jeunes ont de moins en moins envie de travailler dans la restauration. En même temps, les conditions de travail dans la restauration, c'est très dur. Les salaires,
ça
franchement,
s'est amélioré,
sont
quoi.
De... Bah, ça s'est amélioré, mais pas assez. En fait, oui mais les salaires ne suivent pas assez. Le problème, c'est que je n'en veux pas aux restaurateurs non plus parce que.
1900 euros, Rémi le disait hier.
Parce que pour augmenter ses salariés,
c'est pas très dur. Et on va certainement en avoir avec nous au 32-16. Oui. N'importe quel restaurateur te dit aujourd'hui que ce n'est plus ce que ça a été. L'UMI, le syndicat des restaurateurs, le reconnaît. Effectivement, on a fait. Ils disent eux-mêmes. On a fait n'importe quoi
quand
ces dernières années.
Quand je dis conditions de travail.
Et on a traité les gens pas bien, certainement.
Mais je parle
on les a sous-payés. Ceci étant dit, il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'est notamment une des raisons. Aujourd'hui, 200 000 postes manquent dans la restauration. Et donc. Les restaurateurs ont dû se prendre en main. Il y a eu un rattrapage des salaires, plus 13% sur l'année 2023, 16%. Un rattrapage. Aujourd'hui, le SMIC hôtelier, il est avec la prime de repas, parce que les repas sont compris. C'est, on l'a dit hier, un peu plus de 1900 euros brut par mois. Le SMIC hôtelier. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent en restauration, qui sont correctement payés, qui travaillent pas forcément le soir, qui travaillent pas forcément le week-end. Ça va mieux. Ça a plus, ce n'est plus ce que ça a été.
Alors. Donc oui, ça va mieux. De toute façon, on n'a pas le choix quand on veut attirer. Oui. Mais je parle de toute façon que travailler dans la restauration, de toute façon, c'est très dur.
Ah bah oui,
oui bien
voilà.
Sûr.
Donc c'est ce que je dis. Donc
c'est pas donné à tout
le monde. Ils peuvent très bien traiter leurs employés de très bonne manière. Faut quand même ouvrir le soir et les week-ends. Donc je suis désolée, c'est dur.
Tu as raison.
En plus,
on est sympa aussi.
Ça peut être très sympa, mais on est debout. Il y a quand même des assiettes à récurer au vinaigre. Enfin, j'ai assez fait ce métier pour vous dire que même quand on est extrêmement bien traité, comme moi je l'ai été d'ailleurs, c'est un métier très exigeant qui demande des sacrifices et c'est dur. Et donc je pense qu'il y a de moins en moins de effectivement jeunes qui sont motivés par ce métier. Moi je le regrette parce que je trouve que c'est un métier magnifique.
Et beaucoup moins de clients, donc ça devient problématique.
Et vous dites que c'est un métier qui demande des sacrifices, mais qui demande aussi du talent. Et effectivement, aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir son restaurant. Quoi. Je veux dire, ça viendrait pas à l'idée d'ouvrir un salon de coiffure s'il n'y a pas un CAP coiffure.
Il est vrai que moi, il y a une chose sur laquelle je réfléchis, c'est que effectivement, on le dit souvent, pour devenir coiffeur, on a besoin d'un diplôme. Et donc, pour devenir cuisinier.
Je vais vérifier parce que, vu le nombre de coiffeurs qui sont des.
Qui sont maintenant.
Je vais regarder si vraiment c'est obligatoire.
Pourquoi ne pas avoir un diplôme pour les cuisiniers?
Non, mais c'est un vrai sujet aussi. Il y a un grand nombre de salons de coiffure qui ont fermé ces dernières années en France pour les mêmes raisons. Il y en avait beaucoup trop. Beaucoup trop.
Ça revient là.
Ouais.
Ça revient avec les fameux coiffeurs barbiers.
Barbiers.
Ouverts. 24/24, où les gens ne sont pas employés, où ce sont des auto-entrepreneurs qui louent.
Alors, attendez, non mais là on va rester sur les restos. Fred Hermel, vous qui allez souvent au resto, on sait
de
que.
Moins en moins.
Ah bon ? Même vous ?
Oui.
Et pourquoi ?
Parce que c'est pas bon et c'est cher. Donc je sélectionne de plus en plus.
Là, je suis très inquiète pour les restaurateurs parce que vous étiez leur client en or. Quoi.
Ah ouais, non, moi j'aime vraiment bien manger. Pour moi, c'est la fête. C'est-à-dire que j'adore manger. Pour moi, le budget que je consacre dans ma vie à bien manger est important. Mais là, je choisis de plus en plus parce que je me fais avoir et moi je déteste. Et s'il y a bien un sujet, moi si on me donne pas mon bon os, je suis comme un chien, j'aboie hein, et je grogne. Hein. Donc non, je trouve que la qualité est à baisser, mais de manière incroyable. Incroyable. Donc je sélectionne de plus en plus, je monte en gamme moins souvent. Voilà. Et surtout, il y a un vrai problème de service. C'est-à-dire que moi, quand je suis au resto, j'aime être le roi. Je suis désolé. j'ai envie qu'on me traite bien. Bah non, mais
je comprends la phrase. Oui,
moi l'entrecôte de mon boucher de Sébastien, je la fais tout seul et c'est magnifique hein. Donc moi si je vais manger cette entrecôte dans un resto, il faut qu'on me traite très bien, ni trop ni trop peu. C'est-à-dire il faut trouver l'équilibre. Quand c'est un petit peu trop obséquieux, ça m'énerve. Il faut trouver le truc.
Et d'ailleurs, voilà. les bons restaurants notoires ils cartonnent hein. Moi je vois que les terrasses sont pleines, il y a pas de problème. Je sais qu'il y a on a du mal avec l'inflation en ce moment, mais les bons restaurants, ils sont pleins.
Hein. Et tu sais, par exemple, il y a un resto que j'aime beaucoup à Paris, qui est très connu, parce que c'est le resto préféré du président de la République, qui s'appelle La Rotonde, qui a un rapport qualité-prix. Alors, c'est pas donné, mais c'est un rapport qualité-prix assez intéressant. Franchement, vu la qualité, par rapport à plein de restos, si tu ne fais pas de folie sur le vin, c'est très correct.
Et le service est formidable. Est
exceptionnel.
Mais après, ce qui est hyper agaçant, c'est un restaurant ouvre. Donc, tu y vas pour voir. Et c'est génial. Et tu dis, ah, c'est génial. J'ai trouvé mon petit resto à côté de chez moi. Je suis trop contente. Tu retournes 3 mois après. C'est plus la même chose. C'est-à-dire que t'as l'impression. Exactement. Et là, tu te dis, OK, donc en fait, on m'a arnaqué. C'est-à-dire qu'on m'a vendu du rêve au départ. Voilà. Et 3 mois après, ils ont réduit les quantités. La viande n'est plus la même. Le poisson n'est plus le même. T'as l'impression qu'ils ont changé de chef entre temps. Et c'est plus la même chose. Et tu te dis, là, il y a quand même un truc. Il y a un truc qui va pas. On aura Stéphane Manigold, d'ailleurs, dans un instant, avec nous. Ce sera notre invité, sur ce débat. Mais on va commencer tout de suite avec Yannick, qui nous appelle, de Saint-Aubin, sur l'Ourès, dans l'Orne, dans la Drôme, pardon. Bonjour, Yannick.
Bonjour.
Et Yannick, qui est restaurateur depuis 35 ans. Yannick, vous les comprenez, toutes ces fermetures de restaurants ?
Oui, je comprends, parce que forcément, il y a de moins en moins de monde qui a des diplômes, qui passe des diplômes. Les jeunes ne veulent plus trop travailler dans ce métier, on comprend. Parce que des fois, souvent, vous parlez la semaine à 4 jours. Chez Questel, vous adorez la semaine à 4 jours. Mais
nous, 4 jours, ça n'a rien à voir.
Oui, mais nous, c'est la semaine en 7 jours, à 7 jours et 7 jours. Et c'est des 35 heures en 2 jours et demi. Donc, c'est sûr que... Alors moi, je l'ai fait parce que c'est mon affaire. Je suis chez moi, mais les jeunes, maintenant, ils ont un peu de... Même moi, quand j'étais jeune et que j'ai commencé au début, je ne regardais pas forcément... Alors, le salaire, c'est une chose, mais les horaires, l'endroit où j'allais travailler... Maintenant, les jeunes, dès qu'ils ont passé leur diplôme à 17 ans, ils veulent pas trop travailler, ils veulent pas se déplacer, ils veulent pas partir. Du coup, tout ça, plus tard, et ça se retrouve, et on a de moins en moins de monde pour travailler. Et par contre, les restos.
Et c'est pour ça que les restos ferment.
Pardon ?
C'est pour ça que les restos ferment.
C'est pour ça, parce qu'en fait, il y a moins en moins de gens qui sont formés, et il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas formés, qui ouvrent des restaurants en sachant pas du tout ce que c'est. Et quand tu vois ce que c'est, forcément, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un restaurant, je vais embaucher un chef. Mais les chefs, maintenant, ils demandent beaucoup d'argent. Et en fait, ils veulent travailler moins en moins. Et si le chef s'en va, c'est fini, le restaurant, il ferme.
Oui.
Vous comprenez? Donc,
vous êtes obligé de bien traiter.
Ils peuvent pas tourner. Alors, ils passent un chef, ils passent deux chefs, ils passent trois chefs, et après, ils arrêtent. Voilà. Et après, je pense aussi, et moi, je le vois un peu dans ma région. Je suis dans des petits villages. Moi, je suis dans un village de 200 habitants.
D'accord.
Il y a d'autres villages. Les mairies investissent énormément dans des bâtiments parce qu'ils veulent avoir leur bistrot, ils veulent avoir leur restaurant et mettre des gens dedans qui, malgré le fait qu'ils paient 500 euros de loyer par mois, mais quand ils s'aperçoivent de ce que c'est, il faut être ouvert le matin, il faut être ouvert le midi, le soir, les week-ends. Moi, ça fait 28 ans que j'ai repris le restaurant de mes parents. Ça fait... À part le lundi de Pâques après le Covid, j'ai toujours travaillé le lundi de Pâques, j'ai toujours travaillé à l'Ascension, travaillé en juillet-août.
Non mais ça c'est un métier difficile. Je comprends évidemment Yannick et je comprends également la pénurie de personnel. Après effectivement vous avez parlé de turnover chez les chefs et c'est sûr quand un chef change, le restaurant n'est plus le même et pour peu que le choix n'ait pas été judicieux, c'est sûr que ça entraîne parfois la fermeture d'un restaurant. Merci Yannick d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat c'est Stéphane Manigold, bien sûr membre des GG, restaurateur et président de région de l'UMI Grand Paris. Bonjour Stéphane.
Bonjour Estelle, salut les équipes.
Bonjour Stéphane. Alors vous ne fermez pas, hein. Je crois que vous êtes à 7 restaurants à Paris, c'est ça ?
8 et on ouvre 8. Le 9e dans peu de temps.
Ah écoutez, j'ai pas été invité, c'est pour ça que je ne le savais pas.
Je vous l'annonce en exclusivité, vous êtes tous invités à venir parmi nous.
Eh bien merci.
Je suis prêt à ce qu'on appelle le soft opening.
Écoutez, très bien, merci beaucoup. Stéphane, non mais vous les comprenez ces fermetures de restaurants parce que vous êtes le premier quand même à dénoncer certains restaurants micro-ondes, on va dire. Aujourd'hui, on n'est jamais sûr de la qualité d'un resto quand on y met les pieds, quoi.
Et non seulement je découvre pas que nous sommes enfin, entre guillemets, sur le sujet des faillites, Pourquoi ? Parce que ça fait des mois, y compris à votre micro,
ouais, vous me disiez.
Salle, où je disais, ouais. Mais les faillites arrivent. Et je m'étais battu, moi, pour la transparence. Pourquoi ? Pas pour les restaurateurs et pour faire plaisir au nombril d'un tel ou un tel. C'était simplement parce que le consommateur, en fait, et j'ai écouté notre ami Fred Hermel tout à l'heure, bah, le consommateur, on est en train de le perdre. Parce qu'on se parle qu'à nous. On parle qu'entre nous dans une espèce de corpo qui veut peu parler entre elles, qui vit en autarcie au 16e siècle. Alors qu'aujourd'hui, bah en fait, il faut juste tendre l'oreille et écouter le consommateur. Et moi, quand j'écoute quelqu'un, Fred Hermel, avec beaucoup de... Ça a capté pour moi de l'entendre dire « Je vais plus au restaurant parce que j'en ai marre de me faire arnaquer. » Franchement, bah, malheureusement, il a raison. Mais il globalise. Et comme beaucoup de Français, bah, beaucoup de Français, ils n'ont pas envie de se dire bah, « Une fois sur trois, je vais me faire avoir. Donc, je vais pas au restaurant. » Et la question qu'on doit se poser, en fait, tous, c'est pourquoi l'épargne des Français est aussi conséquente et nous, on n'arrive plus à attirer... les consommateurs. C'est quand même une vraie tragédie.
Mais parce que aussi, quelque part, Stéphane, je pense que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt aller mettre de l'argent dans quelque chose qui reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, quelque part, vous achetez un objet, vous savez ce que vous avez, vous savez, je veux dire, exactement ce que vous avez acheté. Vous allez au restaurant, si vous n'êtes pas sûr du resto, vous vous dites, attendez, comme l'a dit justement tout à l'heure Benjamin Hamar, famille de 4, c'est au moins 100 euros. Donc vous dites, attendez, je vais mettre 100 euros dans un truc, je sais même pas si c'est bon, si je vais passer un moment d'exception. Ben non, aujourd'hui, mes 100 euros, je peux les mettre dans ça. Et au moins, je saurai que j'en ai pour mon argent. C'est ça le problème aussi. Un restaurant, même si on passe un moment, c'est un moment. Mais c'est pas quelque chose qu'on va garder. Et je pense que ça aussi, aujourd'hui, quand il faut faire des arbitrages, on va préférer prendre des choses qu'on va garder. Et Dieu sait que moi, j'ai des souvenirs de restaurants exceptionnels et qui resteront toute ma vie. Et je me souviens encore des saveurs de certains restaurants. Mais parce que je sais où je vais. Mais quand on n'est pas sûr du lieu, on ne dépense pas 100 balles comme ça, quoi.
Ça s'appelle un piège à touristes, Estelle, et vous avez mis le doigt dessus. Et moi, je dénonce, en fait. Je vais vous donner deux chiffres. Je vais vous donner, mais qui vont être très parlants. Une ville comme Paris, c'est 2 200 000 habitants. Il y a plus de 18 000 restaurants à Paris. Je vous prends l'Italie. Rome, 2 800 000 habitants, 9 000 restaurants.
Ah oui,
et
d'accord.
En fait, qu'est-ce qui se passe?
Et encore, Stéphane, tu ne parles que de véritables restaurants.
Oui, c'est ça.
Tu parles pas de la restauration rapide, de
Junk Food, etc. Il y en a pas, il y en a pas.
Non, mais il parle de Paris. Parce que moi, j'ai le chiffre là, il y a 26 618 établissements de restauration à Paris.
D'accord.
En comptant tout.
Dans les 18 000 restaurants, je dis 10 restaurants. Pourquoi? Parce que on a tous vu le magasin de chaussures en bas de chez soi fermé, et puis 6 mois après, il y avait un truc qui s'appelait restaurant. Il a mis où son extraction pour faire la cuisine? Il faut savoir que pour ouvrir un restaurant aux normes, pour faire de la cuisine, pour faire des bons plats mijotés, pour faire une belle côte de bœuf que notre ami Fred Hermel adore, pour faire des bonnes frites, il faut une extraction.
Mais
s'il n'y a pas d'extraction, tu ne peux pas faire tout ça. Donc en fait, les mecs, ils ouvrent des 10 restaurants avec des micro-ondes, parce que ça, tu n'as pas besoin d'extraction. Jusqu'à 20 kilos en puissance énergétique, tu n'as pas besoin d'extraction. C'est le problème, en fait. On devrait peut-être arrêter d'appeler restaurant des gens qui n'ont pas d'extraction. Moi, un Japonais qui fait des sushis et qui n'a pas d'extraction, ça ne me gêne pas. Mais un restaurant qui demande la blanquette de veau et qui n'a pas d'extraction, ça me gêne.
Bah oui, c'est micro-ondes, forcément. Oui, Benjamin Marc.
Non, mais pourquoi il y en a plus à Rome? Pourquoi il y en a plus qu'à Rome, alors?
Parce que Rome, en fait, c'est une ville où il n'y a pas tant que ça de restaurants. Déjà, Rome, il n'y a pas de fast-food. En Italie, il n'y a quasiment pas de fast-food. Donc, en fait, alors que nous, on est envahis par la junk food. Donc, en fait, il y a ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a trop de restaurants, effectivement, à Paris. Et que donc, plus t'as de restaurants, plus t'as forcément de restaurants où tu manges mal.
Oui, ça,
c'est assez logique. Et nous, en France, par rapport à l'Italie, on a un nombre de fast-food qui est exponentiel. Oui, Benjamin Marc.
Par rapport à ce que tu disais à l'instant sur justement les gestes de la convivialité, ordinaire, ça m'est revenu. Il y a de ça quelques semaines, pour mon anniversaire, j'invite effectivement ma compagne, mes beaux enfants au restaurant et leur compagne. Et compagnons, on n'était pas 50, on était 7.
C'est à Villejuif, dans votre pizzeria?
Non, c'était à Antony. C'était à Antony. Et alors, c'était pas justement dans la fameuse pizzeria, mais donc un petit restaurant tranquille, on était 7. Je m'en suis tiré pour 240 euros.
D'accord.
Donc, je veux dire, je me dis, mais c'est pas un truc de fou quand même, vous invitez un petit resto en famille, 7 personnes, c'est pas, voilà, vous êtes pas en train de faire un truc de dingue. Mais qui aujourd'hui peut tranquillement sur un restaurant lâcher 240 balles? Je crois que si on pose la question aux Français, il y en a pas beaucoup. En fait, ce qui est terrible, c'est que il y a encore pas si longtemps, il y a de ça 20 ans, aller au restaurant, c'était quand même quelque chose que tout le monde pouvait s'offrir de temps en temps. Là, Enfin, moi, je me souviens très bien, mais les anciens nous invitaient parfois au restaurant. Ouais. C'était quelque chose de...
Avec les enfants, d'ailleurs.
Exactement. Mais aujourd'hui, bah, regardez, la réalité pécuniaire, c'est celle-là. Et je pense qu'on est... tout ce qui... Les autres facteurs, je les entends. Mais je pense concrètement que le cœur du problème, il se situe là.
Alors, je voudrais qu'on entende Franck. Franck, il nous appelle du Muy, dans le Var. Il est hôtelier, restaurateur depuis 30 ans. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour toute l'équipe.
Bonjour. Et Franck, vous faites partie de ces restaurants pour qui c'est compliqué en ce moment.
Alors, moi, je voudrais juste... le quoi qu'il en coûte de notre cher président, M. Macron, devient un quoi qu'il en coûte pour des restaurateurs. D'accord ? Effectivement, le PGE, c'est un drame pour beaucoup de gens. Hein. Étienne Libic disait qu'on s'est construit des piscines avec. J'ai même pas pu faire une petite bassine pour mes canards. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de stigmatiser. Et puis après, surtout, il y a les charges. Les charges qui ont explosé les boulangers. Moi, j'ai un four à chaleur tournante, comme un boulanger, vous imaginez? Donc là, ça a explosé. Et puis en plus, puis on nous met des petites choses en plus, les tickets restaurants, qui s'appellent peut-être maintenant les tickets magasins, vous voyez? C'est un ensemble de faits qui font que, effectivement, on se plante. Alors, je comprends, j'entends des gens qui disent qu'ils prennent cette profession sans avoir forcément compétence, parce que pourquoi il y a des restaurateurs qui, à cause de ce que je suis en train de vous dire, se plantent, donc en vente, en liquidation judiciaire, ils rachètent pour deux fois, deux sous quatre, et puis finalement, ils n'en ont pas les compétences, et eux également, à nouveau, se plantent six mois derrière, et ainsi de suite, et c'est un engrenage, donc c'est pas que les clients, j'en ai, c'est ça, il faut simplement se...
Alors Franck, malheureusement on vous a perdu. Franck, la ligne elle est très mauvaise, mais on comprend qu'effectivement les restaurateurs, et on l'a pas dit hein, Stéphane Madigol, mais c'est vrai qu'il y a le PGE à rembourser. S'il y a eu PGE, c'est parce que le resto serait mort, donc heureusement qu'il y a eu le PGE, mais il y a effectivement des charges qui explosent. Juste très rapidement, Stéphane Madigol, pour sauver les restaurants, faut faire quoi aujourd'hui?
On a raté le coche. Alors déjà baisser les charges, ça c'est évident. Les charges patronales, sociales, elles sont trop élevées. Mais surtout, on a raté le coche de ce qu'on appelle la street food. J'observe que le guide Michelin a étoilé au Mexique quelqu'un qui fait des plats à emporter dans la rue. Il a mis une étoile à ce type d'établissement. Il a mis une étoile également à Bangkok, chez une femme qui a des lunettes de plongée et qui fait de la cuisine dans la rue. On a raté le coche de la cuisine de rue. Est-ce que l'un d'entre vous peut me citer une excellente cuisine de rue à Paris, ce qu'on appelle la street food? Ça n'existe pas.
On a le camion qui fume barre là.
Oui,
un truc comme ça là.
On a raté le coche de la protection de la restauration traditionnelle et on a raté le coche de la street food, donc la cuisine de rue.
C'est
une cuisine
de rue
qui pourrait être généreuse, qui pourrait être formidable, qui pourrait être une cuisine de partage, notamment en termes de quand on a un problème de pouvoir d'achat. Putain, on a tout raté, c'est un truc de fou. Il faut qu'on reprenne les choses en main, il faut que les parlementaires reprennent les choses en main, et il faut que la restauration arrête de se parler elle-même, qu'elle parle un tout petit peu à ses clients, et qu'on arrête de les prendre pour des cons.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Stéphane Manigol pour ce cri du cœur. On a eu énormément de messages sur l'appli RMC. Rémi, tu peux en lire quelques-uns et puis on passera au sondage.
Al qui nous dit trop de restaurants, c'est certain. Le problème, c'est que beaucoup de ces restaurants qui ferment ne sont pas les plus mauvais. Quand tu regardes les restaurants qui reprennent, beaucoup de chaînes, beaucoup de pizzerias, de fast-food, de junk food, de la gastronomie, elle devient catastrophique dans notre pays.
Ouais, c'est aussi une des raisons de la désaffection des restaurants. Y a-t-il trop de restaurants en France?
Assez partagé. C'est Louis qui l'emporte, mais pour seulement 55%. De ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
C'est vrai qu'il y a surtout trop de restaurants dans les grandes villes, en fait, où il y a une offre démentielle.
On avait posé la question, y a-t-il trop de mauvais restaurants en France?
On aurait eu 95,5. Allez, dans un instant, Charlotte Méritant, RMC Conso, on parlera de la nouvelle arnaque tendance du moment. C'est l'arnaque aux bagages perdus. On vous explique ça dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 14h29, vous êtes sur RMC, RMC Story, et c'est le moment de parler conso avec Charlotte Méritant. RMC Conso, c'est tout de suite.
Estelle Midi.
RMC Conso.
Et Charlotte, aujourd'hui, vous allez nous alerter, vous allez nous parler d'une arnaque très en vogue en ce moment, c'est l'arnaque aux bagages perdus. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'en avais jamais entendu parler.
Vous vous souvenez du buzz des ventes de colis perdus il y a quelques temps?
Bien sûr, j'ai failli me laisser prendre.
C'était quelque chose qui cartonnait avec ces entreprises qui vous vendent des colis jamais arrivés à leur destinataire. C'était un peu la pochette surprise pour adultes. Et bien là, c'est un petit peu le même principe. C'est une arnaque qui surfe un petit peu sur cette tendance. En vous en croire que vous pouvez acheter des bagages qui ont été perdus à l'aéroport, perdus de passagers aériens qui ne les ont jamais récupérés. Donc ça passe par des annonces sur Facebook, de fausses annonces, de fausses pages d'aéroports. Par exemple, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été touché, aussi à Bruxelles, à Zurich, etc. Et même aux Philippines, j'ai retrouvé une annonce aux Philippines d'une arnaque similaire. Évidemment, l'objectif, hein, c'est tout simplement de vous faire entrer vos coordonnées bancaires sur un site frauduleux pour ensuite vous voler votre argent.
En même temps, vu le nombre de bagages perdus dans les aéroports, je veux dire, on peut se dire, bah tiens, c'est logique qu'ils cherchent à les vendre. Mais
26 millions en 2022.
Oui. Donc il y a une logique.
Il y a une logique et une manne financière quelque part, c'est clair.
Mais elles ressemblent à quoi ces fausses annonces ?
Je vais vous en décrire une que j'ai repérée il y a deux jours sur une fausse page de l'aéroport de Zurich. Alors ça dit très précisément... Nous devons nous débarrasser.
Ah bah tu m'étonnes, il y a un lingot dans le.
Mais sache Rémi que en Suisse c'est autorisé, sauf qu'ils font des ventes aux enchères. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, la publication, elle dit nous devons nous débarrasser rapidement des bagages perdus de nos clients, car nous n'avons pas pu retrouver le propriétaire et notre inventaire est plein. Les téléphones portables, ordinateurs, bijoux de valeur et bien d'autres objets sympas se trouvent dans les valises et ils vous vendent ça pour 2 euros le bagage.
Mais vous rigolez, mais en fait je sais que c'est une arnaque, mais j'ai quand même envie d'y répondre.
Ah, envie d'y croire.
Ça me titille.
2 euros, tu tentes.
Non, bah non, maintenant je tente plus, tu vois. Mais c'est vrai que bon, évidemment, quand on réfléchit un peu, 2 euros, c'est pas très crédible.
Bah,
quoi.
Plus c'est gros, plus ça passe, vous connaissez l'adage. Alors, sous la publication, ce qui marche aussi, c'est qu'il y a des commentaires de gens très, très, très contents. Par exemple, une certaine Sabrina dit « Je suis très satisfait de mon achat. » Alors, je vous lis tel quel. Ouais, déjà, voilà. De la première valise, j'ai trouvé un ordinateur portable et des boucles d'oreilles en or. Il y en a même un qui dit qu'il a trouvé 5000 euros en petite coupure. Ça va un peu loin quand même.
Oui, c'est des petits chanceux, quoi.
Oui, alors Sabrina, c'est une petite chanceuse, mais surtout Sabrina n'existe pas. Enfin, elle existe probablement, mais la pauvre, elle a dû se faire pirater son compte Facebook. Il y en a énormément, malheureusement, qui sont dans ce cas. Et aujourd'hui, sa page est utilisée pour diverses arnaques. D'ailleurs, quand on va et qu'on clique sur sa page, on s'en aperçoit parce qu'il y a d'autres gens qui signalent la page en disant que bah, c'est une arnaque, tout simplement. Donc, en un clic, on peut le savoir. Il y a un autre indice, c'est que la publication, elle est agrémentée d'une photo de bagages. Et quand on fait une recherche de cette photo ailleurs sur Internet, on s'aperçoit qu'elle a été utilisée à plusieurs reprises pour le même genre d'annonce, sauf que dans plusieurs aéroports, donc à Zurich, à Bruxelles, etc.
Peut-être la même personne qui a perdu ses mêmes bagages.
Oui, bien sûr.
Plusieurs aéroports. Mais concrètement, ça aurait pu exister quand même, une vente de bagages perdus. C'est pas idiot.
Pas en France. J'ai contacté Air France qui m'ont répondu que lorsque les bagages sont perdus, au bout de 90 jours, ils sont confiés aux autorités, puis détruits. Mais dans d'autres pays...
Détruits.
C'est dommage. Hein.
Bah oui, mais, c'est complètement idiot.
Mais dans d'autres pays, ça existe. Par exemple, aux États-Unis, je vous disais en Suisse, ça existe aussi en Angleterre ou en Allemagne, où les valises perdues sont revendues aux enchères. Et donc, je vous en parlais, 26 millions de bagages perdus, endommagés ou retardés dans le monde. Sauf, petite info marrante, à Osaka, au Japon, seul aéroport qui n'a jamais égaré une seule valise.
Ça m'étonne pas, mais bien
ça nous étonne pas, les Japonais.
Bah si, c'est possible, le Japon, bah oui.
Pas une seule.
5 heures, Osaka.
Mais enfin, c'est le Japon.
Les 35 heures.
Ils sont hyper. Mais ça vous étonne.
Ah ouais, quand même.
Ça, c'est sûr que pas Charles de Gaulle.
Ils arrivent encore à m'étonner, c'est vous dire.
En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est quand même effectivement une belle manne financière et pourquoi pas un moyen de lutter contre le gaspillage.
Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, faut pas se laisser prendre. C'est impossible d'acheter des bagages en France.
C'est impossible. Alors, si jamais vraiment la curiosité vous titille, sachez qu'il y a un site qui s'appelle unclaimedbagages.com. C'est un site américain, en fait, qui vient de l'unique boutique aux États-Unis qui revend des objets issus de bagages perdus. Elle se trouve à Scottsboro, en Alabama, et livre en France. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller.
Ça veut dire qu'en fait, je sais pas ce qui est. Mais c'est vraiment un colis mystère.
Non, en fait, c'est pas un colis mystère. Ah. Ils trient. Et ensuite, ils les mettent en vente et ils assurent 20 à 80% de rabais sur le prix du neuf.
Mais à mon avis, c'est pas 2 euros quand même.
Je suis allée voir, non. Je suis allée voir, il y a des sacs de marques de luxe et Chanel, Dior, Vuitton, etc.
À combien?
Mais ils sont très, très, enfin, ils sont plus chers, évidemment, que ce que, enfin, ils sont moins chers que les neufs, mais ils sont au moins à 4 000 $, évidemment.
Ah oui, parce que là, moi, à 2 euros, j'y allais tout.
Ça s'appellerait de la contrefaçon.
Je les revendais direct, tu vois.
Du coup, c'était toi qui
devenais l'arnaqueuse,
quoi.
Je suis passée à ça de la fortune.
Un jour, moi, en Espagne, je me suis trompée de valise, j'ai pas pris la mienne.
Oh,
je rentre à la maison, j'ouvre la valise remplie de Rolex.
Et qu'est-ce que ça fait?
Bah, je l'ai ramené, c'était des contrefaçons.
Ah bon? Elle a regardé quand même.
Mais elle a quand même fait quoi?
expertisé. Quand même, j'ai regardé. Mais ça fait bizarre quand on rentrait qu'on ouvre sa valise.
Tu retrouves ma valise. Par contre, je suis pas fait contrôler à la douane.
Tu m'étonnes. Oui, non, je vous dis que c'est pas à moi.
C'est pas ma valise.
Pas vraiment de douane parce que je l'ai récupéré sur le tapis roulant et ensuite tu sors de l'aéroport.
Non, il y a marqué No SIM to déclare là et
oui, normalement. Quelqu'un m'avait en tout cas chopé à ce moment-là.
Voilà, prison.
Là, ça m'a fait bizarre en rentrant à la maison. Oui.
Merci beaucoup. En tout cas, Charlotte Méritant, on parle de quoi demain dans RMC Conso?
Des gnocchis à poêler. Vous en mangez ou pas?
Mais j'adore. Mais non, mais enfin, j'en fais toujours à mon fils.
Ah, il y a une super tendance. C'est vraiment bien, très à la mode. Ouais. On verra si c'est bon ou pas.
Mais aujourd'hui j'ai renoncé à l'avion, demain je renonce au gnocchi. Enfin,
pas forcément.
J'achète des bio.
Ah oui.
Bah oui, exactement. Une petite marque distributeur bio de gnocchi à poêler.
Ah, c'est bien.
Ça existe, je vous apporterai demain. Merci beaucoup.
Pour s'en Alabama.
Merci Charlotte. Méritant dans un instant les immanquables infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Il fallait pas rater quoi, Rémi?
Bah, on parlera notamment du prix de stationnement taxé, enfin en tout cas beaucoup plus cher pour les gros véhicules, notamment les SUV. À Paris, c'est voté, ça y est.
Ah, ça y est.
Et puis on parlera de la patronne de la CFDT qui est pas très contente des autres syndicats.
Ah bah tiens, c'est pour Benjamin Hamar, ça.
On y va.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, avec Benjamin Hamar, avec Juliette Briens et avec Fred Hermel. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Rémi, avec la mise en place du jour.
Citoyenne sur le sujet, le Conseil de Paris a voté la majoration des prix du stationnement pour les véhicules les plus volumineux, comme les SUV. Dans le détail, cette redevance de stationnement visiteur différentiel ne concerne pas les habitants intramuros de Paris, enfin ceux qui habitent, qui résident dans la capitale. Eh bien, elle visera les véhicules lourds, y compris électriques. Se garer 6 heures d'affilée dans un arrondissement du centre pourra ainsi coûter jusqu'à 225 euros, contre 150 euros dans l'un des autres arrondissements.
225 euros pour 6 heures de stationnement?
Oui, madame.
Enfin, ça me paraît absolument incroyable. Enfin, je veux bien qu'on fasse beaucoup pour l'écologie, mais enfin là, ça paraît dingue. C'est une bonne mesure pour vous, Benjamin Hamar?
Alors, je viens de l'apprendre. J'avais pas connaissance de ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on mette l'électrique et le thermique dans la même escarcelle.
Parce que ce que vise cette votation citoyenne et aujourd'hui ce vote du Conseil de Paris, ce sont les véhicules les plus volumineux et les plus lourds.
D'accord.
SUV.
Et alors le clou? C'est que les gens non imposables qui possèdent une voiture comme ça ne paieront pas.
Oui, alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules lourds, tu peux avoir une Dacia, par exemple, donc qui est la voiture, on va dire, la moins chère. Et si tu n'as pas beaucoup d'argent, a priori, tu vas rouler plutôt dans un véhicule comme une Dacia. Et une Dacia est considérée comme un SUV, donc c'est pour ça que c'est moins cher. Donc tu te doutes bien que là, effectivement, la personne qui est au RSA, elle va rouler en Porsche Cayenne.
Toujours les mêmes qui vont payer.
Toujours les mêmes qui vont payer. Ce sont les riches qui vont payer, de manière à payer les pauvres.
Au revoir les familles à Paris, quoi.
Non, les visiteurs. Très clairement, je vais mettre.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Les visiteurs, c'est pas les résidents.
On n'a rien compris.
Ceux qui.
Si, j'ai entendu.
Merci, madame.
Alors, oui, mais donc les gens ne peuvent plus venir en voiture à Paris.
Taisez-vous.
Tu habites Clermont-Ferrand.
Voilà.
Tu veux venir à Paris.
Oui.
Tu décides, pour venir à Paris, d'y venir avec ton véhicule. Tu as un SUV.
Avec les enfants.
Et tu paieras ce qu'on a indiqué. Tu paieras cette somme.
D'accord. Et
on sera sur
toujours les mêmes. C'est la plaque d'immatriculation qui fera foi. C'est-à-dire que 75, ça va, mais le reste, ça va.
Et donc, en l'occurrence, c'est lié, je pense, aux préconisations du type parking relais.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on arrive de l'extérieur de Paris, on se gare dans un parking relais en dehors de Paris et on prend les transports en commun.
Quand il n'y a pas grève.
Ouais, quand il n'y a pas grève, c'est ça. Bien sûr. Et en l'occurrence, derrière, c'est en lien avec justement la problématique des villes sans circulation automobile. C'est une mesure qui a du sens, bien évidemment.
Enfin, 225 euros les 6 heures.
Oui, c'est fait pour être dissuasif. Fait justement pour que tu ne le fasses pas. Tu te gares à Maison Alfort ou tu te gares à l'entrée de Paris et ensuite tu prends le métro.
Excuse-moi, mais le jour où tu vas acheter un bureau pour ta petite dernière qui passe au au collège. Comment tu fais pour le transporter? Tu vas le transporter dans le métro, ah, dans le métro, ton bureau.
Non, mais ça, ça n'a rien à voir.
Bah si, ça a
à voir. Mais non, mais attends, ton bureau, tu le mets dans ta voiture.
Attends, mais quand je fais des courses, c'est quand même plus pratique.
Ton bureau, tu le mets pas dans la voiture.
Non, mais bah, si, parce qu'il est en kit, je vais pas l'acheter.
Bah non, tu t'arranges pour justement qu'il y ait une livraison.
Tu vas te faire livrer par une voiture qui polluera. Bah c'est super.
Non, mais non, tu prends des livreurs, enfin.
Oui, bah donc ils pollueront.
Mais non, mais les livreurs, attends, c'est autre chose. Les livreurs, ils travaillent. Les entreprises qui justement livrent, c'est une activité économique. Ça n'a rien à voir avec le fait de se balader avec son SUV à Paris en 2024.
D'accord. Donc
en
le
fait...
commercial qui viendra à Paris avec sa grosse voiture, bah lui.
Mais,
il sera
mais non, mais attends.
Non, mais quand j'étais gamine, on était trois. Et que quand les parents, ils voulaient montrer la Tour Eiffel et nous faire visiter un peu Paris, bah on prenait l'espace. Alors voilà, désolé, je sais qu'on est des terribles gens, que c'est horrible.
Mais tu prends
le
métro.
Bien plus pratique. Et on n'avait pas à se garer en banlieue pour prendre le métro avec les trois gosses et les valises. Mais faut arrêter.
Prendre le métro.
Pour aller à la Tour Eiffel.
Du métro à Paris. Je veux dire, moi ça fait 30 ans que je prends le métro à Paris.
Et après on posait la voiture et après on prenait le métro si on avait besoin. Mais c'était pratique d'avoir la voiture.
C'est ce que tu fais.
Il y avait beaucoup.
Tu gardes ta voiture et après tu prends le métro.
Non mais Benjamin Hamard, nous
avec les valises et tout.
On habite à côté de Paris ou dans Paris.
Les valises, tu les laisses dans la voiture.
On loue un truc, on a besoin d'aller déposer.
Mais oui.
On a besoin. Je comprends pas en fait. On a besoin de garer la voiture, bah oui, monter les valises et après on prend le métro. Voilà, c'est tout. Mais enfin.
Je pense que si tu fais une semaine à Paris, dans ce cas-là, c'est très simple. Tu vas effectivement à l'hôtel, tu ranges tes valises et ensuite tu retournes. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même des chose qu'on peut faire. Enfin, après, moi, je veux bien, écoutez, moi, je veux bien les larmes de crocodile en permanence sur l'environnement, la fin du monde, etc. Si on n'est pas capable de prendre quelques mesures pour essayer de diminuer la circulation automobile en ville...
C'est idéologique.
Benjamin, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Tu comprends bien que nous, encore une fois, on habite soit en banlieue parisienne, soit dans Paris. Donc, pour nous, c'est facile. Effectivement, quelqu'un qui vient de Limoges, qui vient visiter Paris pour la première fois avec ses trois mômes, bah c'est compliqué.
Quand tu fais du tourisme en Europe, tu fais comment? T'es obligé d'aller à Londres. Excuse-moi, tu fais comment? Tu fais comment?
Bah,
t'es obligé d'avoir ta voiture depuis Paris quand tu vas visiter Rome.
Il y a plein de gens.
Comment tu fais? Tu fais comment? Tu t'organises en fait. Soit les transports en commun, soit un Uber, soit un taxi.
Mais j'ai les moyens d'organiser.
Ça m'arrive.
Et enfin, on parle de gens, on parle de SUV là, on parle de très grosses voitures.
Mais attends, mais très grosses voitures, t'as des familles et des familles précaires qui ont des grosses voitures, Benjamin.
De manière générale. Hormis les gros SUV,
les Dacia, ils rentrent dedans.
Ah, derrière, je suis désolé, on cible des gens qui peuvent se payer de telles voitures.
Mais encore une fois,
et qui ont les moyens, je pense, de se payer un Uber.
Excuse-moi, mais SUV, c'est pas synonyme de voiture de luxe. C'est ça qu'il faut.
Non,
mais
hormis ton modèle de la Dacia, un SUV, ça coûte quand même de l'argent.
Mais c'est le modèle le plus vendu aujourd'hui, la Dacia. On vend plus de Dacia que de Porsche Cayenne.
Ouais, non, mais d'accord.
Bah oui, donc
alors, je pense quand même que quelqu'un qui vient à Paris avec un SUV, il a une manière alternative pour organiser sa semaine de vacances.
Mais t'en vois beaucoup des Porsche Cayenne dans Paris qui te bloquent la circulation, sérieux, et qui t'empêchent de conduire, c'est quand même incroyable, quoi.
Bon. Et en l'occurrence, derrière, il y a des solutions simples. T'es à Paris, il y a du métro, il y a des tas de choses, il y a des tas d'alternatives.
Tu as raison. Le regret du jour.
La patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, regrette une absence de méthode dans l'attribution des primes pour les employés des secteurs publics et privés mobilisés à l'occasion des JO. Interrogée sur BFM Business ce matin, elle estime qu'il aurait fallu une prime globale pour tout le monde et avoir une anticipation et des discussions qui puissent se passer dans des conditions sereines. Marie-Lise Léon fustige un problème de méthode sur ce sujet et déplore qu'aujourd'hui, tout part tous azimuts, chaque ministre partant dans son coin en attribuant un certain nombre de primes.
C'est plutôt sensé, non, ce qu'elle dit, Marie-Lise Léon.
La proposition, elle est effectivement tout à fait audible et tout à fait intéressante. Le problème, c'est que Mme Léon n'est pas au gouvernement et que le gouvernement n'a pas proposé ça. Et que le gouvernement a proposé, tout simplement, en fonction du rapport de force, en fonction des mobilisations qui se créent, parce que dans chaque ministère, on n'écoute rien, et ben comme quand on n'écoute pas, le ton monte, les mobilisations et les préavis de grève se déposent, et là, on commence à lâcher. Bien évidemment qu'il aurait été censé de poser la réflexion en ces termes-là, et ça aurait été en plus équitable, ça aurait été au service de l'intérêt général. Mais le gouvernement a préféré justement faire comme Monsieur Guérini des déclarations.
Mais vous auriez pu le proposer avec votre syndicat.
Ah, mais attendez, mais c'est
l'union syndicale.
Alors, est-ce que vous l'avez proposé?
Pardon.
Chacun son petit business.
Non. Mais non, je veux bien que tu présentes les choses ainsi, mais je te rappelle une chose simple. C'est le gouvernement qui propose. Les syndicats ont proposé partout d'avoir des primes et des revalorisations salariales. Et partout, on n'a pas écouté. Les seuls endroits où on s'est mis à écouter, c'est lorsque les préavis ont été déposés. Mais bien évidemment, que la CGT en tout cas est favorable à des primes pour tous les personnels, oui, justement. D'autant que l'inflation, elle concerne tout le monde.
Fred Hermel.
Mais non, Marie-Lise Léon, un très bon syndicat à CFDT, premier syndicat de France, hein, je le rappelle, a tout à fait raison dans le sens où il eût été beaucoup plus intelligent d'éviter tout le cirque qu'il y a en ce moment, qui est une union syndicale, aller voir le gouvernement en disant voilà, on vous propose ça. Négociation, ça aurait été un modèle fantastique. Sauf que les syndicats sont concurrents entre eux. Donc chacun essaye de tirer la couverture à lui.
C'est les syndicats qui sont responsables pour n'est pas prime en France, t'es sérieux?
Attends. Après, juste, ça paraît quand même bizarre d'avoir les mêmes primes pour tout le monde, parce que si t'es, je dis n'importe quoi, si t'es à EDF et que tu bosses pendant les JO, tu vas pas faire le même boulot qu'un cheminot. Donc en fait, à un moment, il y a aussi en fonction de la pénibilité du travail.
Principe. Tu peux au moins t'arrêter sur le principe. Et après, charge dans les ministères de négocier. Voilà. Mais au moins le principe. Et ce principe-là, le gouvernement ne veut pas en entendre parler.
Juliette Brien, ça.
Évidemment, je suis pour qu'il y ait des primes pour les gens qui vont travailler plus pendant les JO. Mais après, oui, il ne veut pas les mêmes primes en tant que si on est policier, infirmière, et si effectivement on est agent de la RATP. Moi, c'est mon avis. On n'est pas dans les mêmes conditions. La police, ça fait un moment qu'ils ont été entendus. Mais je conçois quand même que j'entends depuis un long moment, et je parle de plusieurs années, les syndicats parlaient de ces primes. Ils ont demandé, une fois que je te trouve un peu dur, Fred, les ministères sont prévenus depuis longtemps que cette réclamation, elle était là de longue date, et ça fait de longue date que les syndicats disaient, attention, prévoyez à l'avance, parce que on va pas être contents, donc voilà.
Moi, ça fait 20 ans qu'on sait qu'on va voir les JO.
Les policiers nationaux vont obtenir des primes, mais les policiers municipaux, ce sont des agents territoriaux, macasse. Donc en réalité, derrière, alors que ce sont des missions de surveillance et de sécurité.
Et pardon, mais tu n'en as pas parlé, bien sûr, mais les salariés du privé aussi risquent de ne pas avoir de primes.
Je suis très clair, de toute façon, je l'ai déjà dit ici et ailleurs, je suis pour que, justement, les JO soient l'occasion d'une revalorisation salariale pour tout le monde.
Très bien. Mais c'est bien.
Mais moi, je le dis, c'est très très clair. Tout le monde a besoin de revalorisation salariale, dans le public comme dans le privé.
Oui, mais dans le privé, ils font pas grève.
Il y a des entreprises où des grévés qui efficaces semaine. Hein. Souviens-toi, Total et les raffineries, c'est du privé. Hein.
Faut voir, parce qu'il y a vraiment des métiers qui, effectivement, directement touchés. Je parle dans les hôpitaux, la police. Je suis tout à fait d'accord. Après, faut pas en faire trop non plus, quoi. On va voir si vraiment les agents de la RATP vont être débordés toute la semaine. J'aimerais voir ça, quand même.
Ça, c'est sûr que oui. Ah, bah, c'est sûr que oui, puisque les horaires des métros vont changer. Et franchement, ils vont avoir une pression.
Si c'est le cas, ils méritent une prime.
Je mérite d'être payé à la hauteur des années travail. D'hyperinflation qu'on a passées. Tout le monde mérite des augmentations de salaire.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec les JO, ça sert pas à autre chose.
Mais c'est un bon levier pour les obtenir.
Ah bah c'est sûr.
Oui, tout à fait. Et je l'assume. Ah bah, mais
alors, la médaille d'or, vous l'avez déjà.
Regarde-moi bien dans les yeux, je l'assume à 500%.
Oui, bah ça, on n'est pas étonné. Mais c'est sûr que c'est pratique. Tiens, il y a les JO, mais on va négocier ça et ça.
Mais souvenez-vous, l'année dernière, quand le gouvernement tablait sur le pourrissement de la réforme des retraites parce que les gens n'avaient pas l'argent pour faire grève, ils étaient opportunistes. Personne ne leur reprochait. Eh ben, on fait pareil.
Très bien. Vincent Serroussi, notre humoriste, est là. Il est prêt à entrer sur le plateau. Serroussi n'a pas tout compris.
RMC, Estelle Midi.
Serroussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Alors Vincent, aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi une prison veut organiser un pique-nique à Versailles pour des détenus.
Bah oui, apparemment les JO ont déjà commencé, hein, avec la première épreuve d'athlétisme dans les jardins de Versailles entre les gardiens et les prisonniers. Et oui, bah après le ministère l'a dit, hein, au moins les évasions, bah ça libère de la place, hein, tout simplement. Non, moi j'ai quand même hâte de voir la visite des prisonniers du château. Donc à votre gauche, une guillotine, voilà, que certains retrouveront peut-être tout à l'heure si vous foutez la merde dans le château. Et à votre droite, la couronne du roi, qui n'est plus là. Quelqu'un l'a volée, visiblement. C'est la fameuse politique pénale de fermeté, hein, du gouvernement. Première décision, les emmener en promenade à Versailles. On dirait un peu mon père quand j'avais 8 ans. T'as eu 4 sur 20 à ton contrôle d'histoire ? Ce week-end, c'est musée. Oh, ça fait peur, Estelle. Hein. Qu'est-ce que ça fait peur ? Non, au moins, ça va cultiver les prisonniers, quoi. Qu'est-ce que tu as appris au château de Versailles ?
Il est difficile d'être le roi. droite de la France.
Très bien, très bien.
C'est les inconnus.
Absolument, mais encore.
Ah mort, Louis Croivet, bâton.
Voilà, là c'est des bons petits français, c'est bien.
Cette mesure ne vous choque pas, Vincent?
Bah, c'est surtout les Versaillais qui vont être choqués. La dernière fois qu'ils ont vu des délinquants dans Versailles, c'était au 18e siècle, donc si vous voulez. Non, pardon, 2022, il y a eu le congrès à Versailles avec Macron et les députés, autant pour moi. Non, c'est... Oui, allez, je sais, j'aime bien. Non, c'est la police de Versailles surtout qui va être contente, je pense. Là, au moins, il y aura un truc à surveiller, quoi. Je veux dire, à Versailles, la dernière fois qu'ils sont partis en opération, c'était pour une histoire de vol de sucette après la sortie du catéchisme, donc si vous voulez, ça leur fait du taf, quoi.
En tout cas, beaucoup disent que cette sortie culturelle entre dans le cadre d'une réinsertion des prisonniers, que c'est bien, quoi.
Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, c'est un bon test de réinsertion pour les prisonniers, parce que si t'arrives pas à t'évader alors que t'es dans les jardins du château de Versailles, c'est qu'on peut plus rien faire pour toi. Vraiment. Bah oui, excusez-moi. Mais d'ailleurs, cette sortie prévoit également un pique-nique, hein, entre les prisonniers. Ça va être sympa, ça aussi, hein. Qui veut des tomates cerises? Un petit peu de tarama? Oh, Michel, lâche le couteau à pain, c'est pas pour mettre dans les yeux de la dame, enfin. Qui a volé le sandwich de Kevin? Stéphane, le shit, ça ne se mange pas! Bah ouais, bah voilà, c'est trop mignon, nos prisonniers.
Bon, vous avez peur des évasions, en tout cas.
Mais non, il y a pas sûr. Enfin. Oui et non, en réalité, parce que je pense qu'ils ont intérêt à s'évader à Versailles, parce que j'ai regardé les autres sorties culturelles de la prison de Toul, et c'est l'exposition de l'Antiquité à l'époque moderne, les Olmèques et la culture dans le golfe du Mexique oriental, vue par les rois carolingiens. Donc ils ont intérêt à s'évader à Versailles, parce qu'a priori, pour cette nouvelle exposition, il n'y aura pas beaucoup d'inscrits.
Ça, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. Vincent Serroussi, tous les jours, dans Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris, 14h50, et en podcast rmc.fr, l'appli RMC, et toutes vos applis de téléchargement. Merci Vincent, et bonjour Vincent Moscato. Bon. Oula, le super Moscato Show, ça va Vincent?
Ça va, monsieur.
Ouais. Mais oui.
Impeccable, mais tu vois, on va parler de rugby, parce qu'il y a quand même une finale qui se profile à l'horizon. Leinster Toulouse, la finale des Pantelles de Dupont, avec un T. Ah. Attention, Dupont. Oui. Ah oui, on l'a. Mais bien sûr, quand t'as le meilleur joueur du monde, la finale, elle dépend de toi quand même. Parce qu'il est.
Et tu crois qu'il va être bien?
Ah, il va être bien.
D'accord, t'y crois toi.
Un mec qui sait jouer à 7, qui joue à 15, il joue bien au boule, il joue bien au tennis, au paddle, il est extraordinaire. Il peut te faire gagner une finale de Coupe d'Europe.
Ok.
Je le pense.
D'accord.
Leverkusen, est-ce la meilleure équipe d'Europe?
Non.
Très bien. C'est tout, non?
C'est l'Europa League, hein, donc il y a un truc au-dessus qui s'appelle la Ligue des Champions.
Ils sont quand même champions d'Allemagne. On peut quand même se poser la question. Quand même. Oui. Faut se poser la question.
Ouais. Oui. Tu vas te dire combien de temps avec ça?
Ah, un quart d'heure, un beau quart d'heure. Hein.
Ah, quand même.
Mais comme on est payé.
Sur les Verkusen.
Il y a beaucoup de pubs. Ils sont obligés de mettre au moins deux.
À mon avis.
Sur trois heures d'émission, ils sont obligés de mettre deux genres de pubs.
Si je peux me permettre un conseil.
Attention, on est sérieux. Comme disait ma mère, ce qui est rentré avant l'hiver, ça crème pas la gelée.
À mon avis, mets toutes tes pubs sur le débat les Verkusen, tu vois. Oui, voilà.
Je continue.
Ah, oui.
Je continue, Estelle. Lyon est-il favori de la finale de la Coupe de France?
Bah, non.
Mais moi, je me pose la question.
Ah, parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Ouais.
Les équipes ascendantes, tu vois, qu'on a sève qui remonte, tu vois, boum. Les glaques qui fleurissent.
En vrai, ce serait extraordinaire. Si nous gagnions cette Coupe de France, avec la saison qu'ils ont vécue,
je ne mettrais pas un gros billet sur la victoire du PSG.
Ouais, de toute façon, la cote ne doit pas être belle.
Deux invités exceptionnels. Arthur Cazot, 70e au tennis.
Ah, le pauvre, tout ce qui lui est arrivé là.
Bon joueur,
il va mieux ou pas?
On l'a fait venir, il va pas mal.
Mais non, mais le pauvre, il a eu cette histoire de crampes là et tout, après il s'est reblessé, alors c'est l'espoir du tennis français quoi.
Ouais, c'est un clou marcher sur un clou, enfin, c'est affreux. Benjamin Védrine, meilleur alpiniste du monde qui veut monter le K2, 8600 mètres en une journée, sans oxygène, et redescendre.
Et sans piolet.
Et les derniers 500 mètres sur les mains.
Non, c'est une
panne. Les derniers 500 mètres sur les mains,
à la fin,
s'il a réussi,
il se met en
bombe.
Allez, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain, midi 15h, dans Estelle Midi sur RMC.
Il se met des genouillères pour pas qu'il finisse.
Et en maillot.
Ça vous va ou pas, ça, comme un menu, non?
RMC jusqu'à 18h.
Le super Moscato Show.